10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Olivier Faure, bonjour.
Bonjour Mickaël Darmon.
Clémenceau avait cette devinette, comment reconnaître un discours de Jaurès? Il met tous les verbes au futur. Quel futur pour les Français et pour la France alors que le Covid-19 a pris le contrôle des agendas politiques, qu'il consacre l'Asie et les États-Unis et qu'il relègue l'Europe dans la file d'attente des acheteurs de vaccins? Quel futur pour le Parti Socialiste et la gauche? Vous avez mis le vieux parti à la rose en thérapie pour qu'il regarde, selon vous, sa vérité en face. Le PS n'est plus tout puissant, vitrifié par le macronisme, doit se mettre au vert, car la force politique nouvelle, c'est l'écologie. Mais on ne change pas une équipe qui perd aujourd'hui. On peut feuilleter le catalogue des ambitions présidentielles déclarées ou cachées. Vous, pour 2022, vous êtes à la recherche de la personnalité qui pourra dépasser les logos et les égos. Olivier Faure, vos adversaires et vos camarades, et parfois ce sont les mêmes, aiment railler votre discrétion, voire votre manque d'ambition, mais ils devraient se méfier, car tous ceux qui vous ont sous-estimé ont perdu la partie. Pour votre grand rendez-vous, je salue donc Nicolas Barré des Échos et Damien Fleurot de CNews, qui va ouvrir cette émission.
Bonjour Olivier Faure. La situation sanitaire est préoccupante, on l'a compris, avec la prise de parole du Premier ministre. C'était vendredi soir à l'issue d'un conseil de défense qui se tenait à l'Élysée. Écoutez Jean Castex.
La question d'un confinement se pose, mais nous en connaissons l'impact très lourd. Nous considérons, au regard des chiffres des derniers jours, que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter.
Olivier Faure, vous avez été convaincu par Jean Castex, tout simplement.
J'ai été plus que surpris par la semaine que nous venons de vivre. Ça a commencé par dimanche dernier, une une du journal du dimanche, confinement imminent. Aux bonnes sources, il ne s'agit pas de critiquer ce journal qui, en réalité, a fait son boulot. On a laissé fuiter l'idée que l'on allait reconfiner. Une semaine complètement folle où vous avez des ministres qui viennent les uns après les autres préparer l'opinion publique. Parfois, se contredisent d'ailleurs sur les mesures à prendre. Et puis, en fin de semaine, le Premier ministre qui convoque l'ensemble des présidents de groupes parlementaires, les syndicats, qui leur donne un certain nombre de documents. Et dans ces documents, il y a une courbe. Une courbe qui fait apparaître quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons un plateau avec ce qui est la contamination actuelle avec le Covid classique, et puis, progressivement, rattrapé par le variant anglais, cette courbe devient exponentielle et elle explose. Et en avril, la prévision que le Premier ministre donne, c'est une prévision qui fait apparaître 250 000 contaminations jour et 1,8 million de contaminations par semaine. Et donc, les esprits sont préparés à l'idée qu'il y aura un reconfinement et puis, finalement, rien.
On n'est pas à quelques jours près, dit Jean Castex.
Dans ces cas-là, si on veut, parce que le vrai problème de cette épidémie, c'est qu'il faut arriver à gagner la confiance des Français. Comment voulez-vous que les Français adhèrent à un projet collectif quand ils ont le sentiment qu'on est tout le temps en retard? En retard sur les masques, en retard sur les tests, en retard sur le vaccin, maintenant peut-être en retard.
Mais c'est le président qui aurait dû s'exprimer alors?
Mais le président, s'il pense que ce qu'il dit est juste, eh bien qu'il s'engage et qu'il vienne expliquer aux Français quelles sont les raisons qui font différer des mesures qui sont des mesures peut-être plus dures. Mais donc, il faut arriver à un moment donné à recréer ce lien. Aujourd'hui, c'est incroyable de voir, en fait, en permanence, ce lien entre les gouvernants et les Français se dissoudre, alors même que sur un sujet comme celui-là, notre
mais
sécurité
pardon,
collective...
Mais pardon, c'est parce qu'il a écouté les Français, le président de la République dit « j'ai écouté les états d'âme, la lassitude, la fatigue, et donc, voilà, je repousse le confinement ». Il a écouté les Français.
Moi, ce que je lis ce matin dans le journal, dans le Parisien, c'est que, en fait, ses proches expliquent que sa décision a été motivée par le fait qu'il a voulu montrer qu'il était le patron, que c'était lui qui décidait et que c'était pas le milieu de la santé, que c'était lui, pas Matignon, pas le ministère de la Santé, c'est lui. Mais je ne sais pas si c'est la bonne façon de procéder. Moi, ce que je crois, c'est que il faut faire partager ses décisions. Et dans un pays démocratique, la meilleure façon de le faire, c'est encore de venir expliquer ce à quoi on croit, essayer ensuite de nourrir un débat et faire en sorte que les Français y adhèrent pour que les mesures qui seront prises soient des mesures acceptées. La dimension psychologique dont vous faites état à l'instant, elle existe, mais elle est d'autant plus difficile aujourd'hui que personne ne comprend quelle est exactement la ligne de conduite du gouvernement.
Nicolas Barré.
Mais justement, certains critiquaient en disant l'État infantilise les gens en leur disant quoi faire en permanence. Et,
ben
là,
oui.
Et là, Emmanuel Macron, en quelque sorte, les prend au mot en disant prenez vos responsabilités.
Mais vous croyez qu'on ne les infantilise pas quand on leur dit toute la semaine on va confiner, puis à la fin on leur dit on ne confine plus? Si vous croyez pas que c'est
une façon de dire aux gens, c'est une façon de leur dire quoi. Soyez responsables,
non, c'est une façon de les préparer à une décision qui n'intervient pas. Mais alors, donc avec des Français qui chaque jour se demandent en fait à quelle sauce ils vont être mangés, avec un suspense qui est intenable, qui angoisse les familles, et puis à la fin on leur dit autre chose. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fabrique. On fabrique, la vraie façon d'arriver à créer de l'adhésion, c'est justement de dire voilà quelles sont les données du problème, voilà comment est-ce que nous, gouvernement, nous réfléchissons, et voilà pourquoi nous arrivons à telle ou telle décision. À ces conditions-là, on peut trouver
Olivier
l'adhésion.
Fort.
Là, c'est le suspense tous les jours, c'est intenable.
Alors Olivier Faure, un autre Olivier Véran, ministre de la Santé, dans le journal du dimanche, assure ce matin que l'on peut et peut-être éviter la nouvelle vague. Mais on sent bien une tonalité différente. Il dit aussi on n'a jamais dit qu'on n'allait pas reconfiner dans 15 jours. Donc, au fond, cette divergence existe toujours au sein du gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer selon vous ?
Mais c'est tout le problème. C'est qu'on aimerait que... Je peux comprendre parfaitement qu'il y ait
un
des
confinement
visions différentes,
inévitable
y compris
pour vous
au sein d'un gouvernement. Mais dans ces cas-là, il faut mettre les données sur la table. Ne pas être dans cette opacité permanente, celle du Conseil de défense, dont personne ne sait vraiment qui y siège, puisque ça change tout le temps, et que pour la première fois, on a eu des images cette semaine, mais on aimerait bien comprendre pourquoi tel ou tel n'y
on
est plus.
On l'avait déjà
pourquoi
vu depuis quelques jours déjà.
Mais enfin, c'est une opacité totale qui règne, et quelle est la nature des décisions? Pourquoi elles sont prises? Qu'est-ce qui les motive? Voilà ce que les Français aimeraient savoir, voilà ce que moi j'aimerais savoir.
Alors, qu'est-ce que vous proposez? S'il faut confiner, faut-il remettre tous les Français sous cloche, comme se refuse encore à faire le président, parce qu'il dit que c'est une démarche moyenâgeuse? Comment on fait pour éviter cette progression exponentielle que vous évoquez?
La première chose que j'aurais faite si j'avais été aux commandes de ce pays aujourd'hui, j'aurais dit simplement que d'abord, je consulte non seulement effectivement le monde médical et de la santé, mais aussi les collectivités locales, ce qu'il ne fait jamais, et faire en sorte qu'on puisse partager une décision. Ensuite, il me semble qu'il y a quelque chose qui apparaît évident à tout le monde, c'est qu'on ne peut pas comparer l'Est de la France avec l'Ouest de la France, le Nord avec le Sud. Pourquoi ? Parce qu'il y a des départements qui sont très différemment impactés. Ils l'avaient compris un temps quand ils avaient choisi de mettre un couvre-feu dans certains départements et pas d'autres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne dirait pas les choses ? Simplement, partout où il y a un risque de voir le variant anglais l'emporter rapidement dans tel ou tel département, eh bien pourquoi est-ce que dans ces départements-là, on ne confine pas, quitte à ce que les autres départements alentour ne le soient pas ? Ça me paraîtrait assez logique, parce que dans cette bataille que nous menons contre le virus, eh bien, il y a deux solutions, et deux solutions uniquement. La première, c'est les restrictions, c'est le freinage, et puis la deuxième, c'est le vaccin. Eh bien, il faut à la fois freiner le virus et accélérer le vaccin. C'est la seule solution.
Nicolas Barré.
Est-ce qu'il faut revoir la composition du conseil scientifique et en quelque sorte l'élargir à d'autres spécialités avec davantage de psychiatres, d'experts de la société qui pourraient prendre en compte aussi d'autres dimensions que la dimension purement médicale ?
Pourquoi pas, mais ce qu'il faudrait surtout, c'est se poser la question de savoir comment est-ce qu'on prépare la décision publique. Elle ne peut pas être uniquement pensée dans des cénacles qui sont des cénacles fermés, dans lesquels, en fait, les élus sont exclus. Et je ne le dis pas parce que je suis élu, je le dis simplement parce que vous avez aujourd'hui des élus locaux, notamment, qui sont au contact des populations, qui savent mieux que quiconque quels sont les réflexes, quelles sont les inquiétudes, quelles sont les angoisses qui sont portées par les gens. Moi, j'ai fait le tour hier des commerçants et des marchés dans ma circonscription, et on a une vision, forcément, qui n'est pas exactement la même que ceux qui regardent uniquement des courbes, etc. Et donc, il faut se poser des questions et le faire avec le plus grand nombre pour pouvoir, je le répète, en fait, il faut partager la décision. Sur cette question sanitaire, ce n'est pas l'affaire de tel ou tel, c'est arriver à emmener un pays, parce que c'est la seule façon, y compris que les règles soient respectées.
Il y a des avis qui se partagent également. Damien Fleurot.
Oui, Olivier Faure, vous étiez sur le terrain hier dans votre circonscription, mais sur les réseaux, il y a des appels à la désobéissance. Peut-être les avez-vous aussi entendus en Seine-et-Marne. Est-ce qu'il faut prendre ces appels à la désobéissance au sérieux? Est-ce que c'est le rôle de l'élu peut-être aussi d'accompagner ces appels de détresse, ces colères de Français?
Mais c'est exactement ce que j'essaye de vous dire, peut-être mal, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous voulez que les gens ne soit pas dans la volonté de désobéir. Si vous voulez qu'il y ait une adhésion, il faut qu'il y ait d'abord une compréhension de la décision. Là, comment voulez-vous qu'après la semaine que nous venons de vivre, les gens comprennent ce à quoi on aboutit ? On vous dit blanc toute la semaine et on fait noir à la fin de la semaine. Évidemment, à force, ça nourrit toutes les thèses. Personne ne comprend exactement quel est, en fait, le fil rouge qui conduit la pensée de nos gouvernants.
Ah, il y en a une qui a une arrière-pensée, hein, c'est Marine Le Pen qui se félicite de voir que finalement le gouvernement, un an après qu'elle le demande, ferme les frontières. Est-ce que cette semaine, elle a au fond, gagné une bataille politique pour vous ?
Marine Le Pen a beau jeu de le penser, mais ça n'est pas la réalité. Parce que pourquoi c'est indispensable aujourd'hui de fermer les frontières ? C'est parce que nous avons des variants qui viennent d'arriver et qui sont différents. Quand tout le monde a le même Covid, ça n'est pas une question, les frontières. Mais quand vous avez des variants différents et qui peuvent être plus contagieux, voire même plus dangereux, eh bien forcément, vous devez là vous poser des questions différentes. Et donc, il est sain que le gouvernement ait pris la décision de fermer les frontières. Je l'avais demandé il y a 15 jours et je suis très heureux que ce soit le cas aujourd'hui. Mais on ne peut pas mélanger les époques et laisser penser que Marine Le Pen avait raison avant tout le monde depuis un an. C'est pas vrai.
On se retrouve avec Olivier Faure. On ne confine pas, mais on vaccine.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Damien Fleureau.
Oui, Olivier Faure, la campagne de vaccination a démarré en France. Elle vise d'abord les seniors, les personnes âgées. Écoutez ces témoignages. On sent de leur part beaucoup de soulagement, mais forcément aussi de l'inquiétude. Écoutez-les.
C'est mon fils qui a pris le rendez-vous pour moi parce que je n'arrivais pas à l'avoir. Et puis alors, j'ai le deuxième rendez-vous qui est pris également.
J'ai une date pour la prochaine, c'est-à-dire un mois de février.
J'ai confiance, j'espère l'avoir. Bon, c'est primordial. S'il n'y en a fait qu'une, c'est pas bon. Ça ne sert à rien, pas grand-chose. Voilà, donc il faut absolument la deuxième.
Alors, le vaccin du labo anglo-suédois AstraZeneca arrive sur le marché avec une efficacité moins importante, visiblement, sur les personnes âgées. Est-ce qu'il faut le réserver aux plus jeunes ?
Mais évidemment, quand on est dans une situation où on a des performances qui sont très différentes d'un vaccin à l'autre, il faut voir ce qui correspond le mieux. Si vous mettez un vaccin, si vous administrez un vaccin qui ne fonctionne pas aux personnes âgées, autant dire que l'effet placebo existera, mais enfin, ça s'arrêtera là. Et donc, oui, sans doute faut-il distinguer selon les vaccins et selon les catégories de population. Et donc, faire en sorte que le Pfizer soit plutôt réservé aux personnes âgées et aux personnes à risque, et puis que l'AstraZeneca soit diffusé pour les autres catégories de population qui sont moins impactées potentiellement par le virus.
Damien Fleureau.
Oui, dans le journal du dimanche, Olivier Véran, justement, laisse entendre que les soignants, les jeunes soignants, pourraient justement être soignés peut-être avant les autres avec ce vaccin d'AstraZeneca. Est-ce que c'est une bonne idée ?
En tout cas, il ne faut pas l'exclure. Moi, je suis plutôt sur la ligne d'Olivier Véran sur ce point, si c'est ce qu'il a dit ce matin. Il me semble que nous avons aujourd'hui besoin d'aller vite sur la vaccination, mais que nous ne sommes pas tous égaux devant le virus. La réalité, c'est-à-dire pour ça que l'acceptation est compliquée par les Français, parce que vous avez une partie des Français qui considèrent que le virus, certes, c'est embêtant, mais enfin, ce n'est pas mortel pour tout le monde. Donc, pour ceux pour qui ce n'est pas mortel, l'AstraZeneca peut être effectivement un bon palliatif.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ? Est-ce que c'est un sujet qui vous, sur lequel vous avez une position forte là-dessus ?
Oui, j'ai une position simple. Je suis pour la liberté.
Parce qu'on remarque une résistance chez le personnel soignant, dans les hôpitaux, pas les médecins, mais souvent chez infirmiers et infirmières, qu'il y a parfois une résistance au vaccin, aussi étonnamment que ça puisse paraître.
Oui, c'est étonnant, mais enfin, ça existe. Et il n'y a pas de raison de penser que personnel soignant soit totalement différent de la population française en général. Donc, moi, ce que je crois en réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont plutôt plus timorés, qui ont des craintes, qui sont sceptiques parce qu'ils se disent « mais comment se fait-il que ?» Sans doute ne savent-ils pas que, par exemple, l'ARN messager, ça n'est pas une technologie qu'on utilise depuis 10 jours. En fait, ça fait 7 ans qu'on travaille dessus. Donc, la réalité, c'est que ça fait des années d'expérience et que ça n'est pas des cobayes qui sont aujourd'hui livrés comme ça au laboratoire pour tester leur technologie. Donc bon, il faudra peut-être du temps pour cela, mais peu importe, il y a suffisamment de gens aujourd'hui qui veulent se faire vacciner pour qu'on puisse déjà écouler les doses dont nous avons la disponibilité, et puis ensuite viendront les autres.
Mais il y a bien des vaccins obligatoires.
Il y a des vaccins obligatoires, mais dans un moment comme celui que nous vivons, dans lequel, je l'ai dit, il y a tellement de défiance par rapport au pouvoir politique, par rapport au même, y compris au laboratoire, par rapport à la science, par rapport au monde médical, eh bien, il faut y aller de manière, il faut convaincre, il faut faire la pédagogie chaque jour. Et moi, ce que je regrette, c'est que ce gouvernement soit rentré dans la question de la vaccinale à reculons, qu'il ait fait le choix de suivre ceux qui étaient les plus sceptiques, alors qu'il fallait faire l'inverse. Il fallait d'abord choisir d'aller à la rencontre de ceux qui avaient envie de se faire vacciner.
Pourquoi et vous ensuite dites qu'ils ont motiver les autres. Ont suivi les plus sceptiques. En quoi ont-ils suivi les plus sceptiques?
Je sais pas, Nicolas Barrier, vous étiez vous début janvier. Moi, j'étais là et donc, en fait, je me suis rendu compte que le gouvernement avait vacciné Morissette quand les autres pays européens, eux, avaient déjà des centaines de milliers de vaccinés. Donc, oui, le gouvernement a eu.
Et les gouvernants dans les pays se font vacciner. Est-ce que vous pensez qu'ici, en France, les élus, les gouvernants auraient dû, au nom de l'exemplarité, se faire vacciner publiquement?
Ça n'est pas. Enfin, moi, je serais prêt à le faire si c'était vraiment la condition pour que les gens se vaccinent. Mais aujourd'hui, ils y vont d'eux-mêmes. Donc, je ne veux pas priver qui que ce soit d'une dose dont, a priori, j'ai moins besoin que des gens qui sont avec des causes de comorbidité ou qui sont âgés. Donc, il faut... Enfin, moi, ce que je reproche... Enfin, maintenant, c'est... Heureusement, les choses se sont mises en place progressivement. Et on avance. Mais quand même, vous vous rendez compte que dans les collectivités locales, qui sont aujourd'hui celles qui ont pallié les carences de l'État... Le préfet appelle et demande à un maire, dans 2 jours, s'il vous plaît, ouvrez un centre de vaccination. Et alors, comment ça se passe? C'est le maire qui se débrouille tout seul. C'est lui qui doit recruter les soignants. C'est lui qui doit recruter la plateforme, qui doit créer la plateforme logistique, qui doit créer en fait le centre d'appel, qui doit ensuite chercher les vaccins là où ils sont. Et sans aucune aide de l'État. Voilà la réalité de ce que vivent les collectivités locales. Et pourtant, ce sont elles qui font le job. Parce que si vous avez aujourd'hui 1,5 million vaccinés, c'est parce qu'il y a eu ces centres de vaccination qui n'étaient absolument pas prévus et qui ont été improvisés dans le courant du mois de janvier.
Est-ce qu'il faut vacciner les enseignants également, qui sont aussi en contact, en première ligne, comme personnel soignant? Est-ce que les enseignants doivent être vaccinés prioritairement?
Ils ne sont pas en première ligne comme le sont les soignants. Les soignants, ils sont au contact du virus tous les jours parce que, y compris, c'est leur boulot. Donc, il faut privilégier d'abord les soignants. Ensuite, il faut aller vers ceux qui ont des causes qu'on appelle de comorbidité et donc aller chercher les publics les plus fragiles. Vous vous rendez compte que pour l'instant, nous n'avons pas assez de vaccins et que nous n'en aurons pas assez avant longtemps puisque si on en restait au rythme actuel... Pour vacciner les 52 millions d'adultes que nous avons en France, ce sera en octobre 2024. Donc, il faut bien sûr accélérer. Et là, de ce point de vue, il y a aussi un effort à produire. Parce que j'ai entendu le président de la République, il y a un an, nous dire que nous étions en guerre. Eh bien, si nous sommes en guerre, il faut qu'il y ait une économie de guerre. Avec, là encore, quand il le faut, des réquisitions. Je vois que Sanofi se met à produire du Pfizer. Très bien, mais il faut que toutes les chaînes de production françaises, européennes, de ceux qui ne savent pas produire un vaccin, puissent produire le Pfizer. Pourquoi? Parce que tant que nous n'aurons pas vacciné l'ensemble de nos populations, et même y compris en France, mais aussi dans le monde, tant que le virus continuera à circuler et qu'il pourra développer de nouveaux variants éventuellement résistants au vaccin, alors nous serons en danger. C'est la raison pour laquelle c'est une course de vitesse et il faut maintenant
l'objectif
en prendre le cap.
Par le ministre de la Santé, 70 millions de Français, si tant est qu'ils existent, 70 millions à l'été.
Déjà, si on vaccinait les 52 millions d'adultes, ce serait pas mal.
Damien Fleurot.
Oui, on parle de la détresse du monde étudiant. Il y a eu des annonces de l'exécutif ces derniers jours, les repas dans les restos universitaires à 1 euro, le retour aussi du présentiel dans les universités, dans les amphis. Est-ce que la prise de conscience de l'exécutif sur cette détresse étudiante, elle est au bon niveau aujourd'hui ou elle est trop tardive selon vous?
Elle est les deux, Damien Fleurot. En fait, on s'en rend compte un an après. Le gouvernement s'en rend compte un an après, alors que tout le monde l'a alerté, dès la première heure. Et tout ça pour arriver à 2 repas à 1 euro. Mais d'abord, je voudrais dire au président de la République que les jeunes ne sont pas tous étudiants, loin s'en faut. Et qu'il y a des jeunes qui sont en détresse et qui, eux, n'ont même pas accès au repas à 1 euro. Mais la vie ne se limite pas au repas. Il faut aussi payer un loyer, il faut aussi pouvoir se déplacer, il faut aussi... Bref... La raison pour laquelle nous réclamons que le RSA puisse être accessible aussi aux jeunes de moins de 26 ans. C'est tout simplement parce que dans cette période pandémique, il faut impérativement leur venir en aide. Parce que les petits boulots qui étaient hier encore effectués, ben, la plupart du temps, il n'y a plus de petits boulots.
Le prêt de 10 000 euros, c'est une proposition venue de La République En Marche. Oui. Remboursable selon les conditions de ressources ensuite, c'est une option.
Je vois, ça dit beaucoup de choses de ce qu'est La République En Marche.
Par exemple ?
Ben ça dit, par exemple, que, en fait, comme les Anglo-Saxons, on propose, en fait, aux jeunes qui sont démunis de rentrer dans l'existence avec des dettes. Ben, c'est une façon de voir les choses. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il faut, au contraire, les accompagner, les aider. Dans quelques jours, il y aura une proposition de loi qui sera débattue à l'initiative du groupe socialiste et de son rapporteur, en l'occurrence Boris Vallaud, qui proposera un projet qu'on appelle le projet L, qui propose deux choses. Qui propose à la fois de rendre disponible le RSA pour les plus jeunes qui n'y ont pas accès aujourd'hui, et puis de donner, au moment de l'entrée dans la vie d'adulte, aussi un capital pour que, eh bien, que ce soit un capital formation, un capital pour passer le permis de conduire, un capital qui permette aux gens de rentrer dans la vie active, parce que nous devons quelque chose à cette jeunesse qui aujourd'hui est malheureusement dans une difficulté incroyable. Ne leur dites pas que 20 ans est le plus bel âge de la vie.
2021 paraît compliqué également. Nicolas Barré.
On entend à gauche des responsables comme Arnaud Montebourg dire qu'on pourrait effacer les dettes dues au Covid, les dettes publiques dues au Covid. Est-ce que c'est aussi la ligne du Parti Socialiste qui serait quand même nouveau, ou est-ce que vous considérez que ce n'est pas sérieux ?
Mais d'abord, ne les caricaturez pas. Ceux qui parlent d'effacement de la dette ne parlent pas de toutes les dettes. Ils parlent de la dette.
J'ai pas dit toutes les dettes. Celle du Covid.
Non, mais on est bien d'accord.
On parle de la dette Covid et on parle d'une dette publique. On parle pas de la dette privée avec des créanciers
tout
privés.
Tout à fait. On parle de la dette publique.
Être remboursée parce qu'il faut honorer la signature de la France. Pour la dette publique, le débat doit exister entre nous et au niveau européen. Soit parce qu'on voit bien qu'elle va être astronomique. Et qu'elle va peser pendant des décennies sur les générations futures. Est-ce qu'on peut vraiment étrangler de cette façon-là tous les pays pendant des décennies, ou est-ce qu'on doit à un moment chercher à desserrer les taux ? Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs solutions. Il y a une première solution qui est effectivement l'effacement total ou partiel de la dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne. Il y a aussi une autre thèse qui sont, en fait, d'arriver à mettre en place une fiscalité sur la spéculation, donc la taxe sur les transactions financières, qui permettrait, si on reprenait le projet qui était simplement celui de la Commission
Barroso... Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Hein. Mais ce que peut rapporter cette taxe n'a rien à voir avec l'ampleur des dettes.
Eh bien, écoutez, regardez bien ce qu'était la taxe Barroso, qui n'a jamais été adoptée, qui n'est jamais sortie du tiroir de la Commission, qui doit dater de, dans mes souvenirs, de 2008. Et dans cette directive, qui est ce projet de directive, ça permettrait aujourd'hui de développer, en fait, une taxe qui permettrait non seulement de financer le remboursement de la dette, mais y compris de commencer à assumer la transition écologique. Donc, il y a des possibilités. C'est une question de choix politique. Et donc, soit on fait payer l'ensemble des Françaises et des Français, comme toujours. Et ce que je vois avec ce gouvernement, c'est qu'il a compris que, comme il faudrait rembourser quelque chose et qu'il fallait bien trouver un moyen, eux, ils disent, on va réformer les retraites. Eh bien, moi, je m'oppose systématiquement et de manière brutale à cette incohérence incroyable. Les Français payent suffisamment cher cette crise pour qu'on ne leur donne pas, en plus, à payer par l'addition de leur retraite la dette publique.
On se retrouve dans quelques instants pour continuer à en parler. Et maintenant, on va où ?
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, le projet de loi dit séparatisme ou pour conforter, c'est son nom, hein, les principes donc républicains, est examiné ce lundi. En tout cas, voilà, on sait qu'il a une dénomination officielle, mais on connaît aussi son surnom. Ce débat donc arrive, ce texte arrive lundi, donc demain, dans l'hémicycle. Il suscite de vifs débats et des inquiétudes dans les rangs d'opposition. On écoute, on regarde.
Vous verrez, pendant la discussion parlementaire, la distance qui va séparer le blabla lisse fait par le gouvernement sur son texte de loi et le niveau de violence des propos qui vont être tenus exclusivement contre les musulmans.
Est-ce que vous partagez les craintes de Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure ?
Oui, je partage ces craintes parce que toute la difficulté, c'est qu'on a un texte dont on ne sait pas très bien quel est l'objectif. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne réglera rien à la question du séparatisme une fois qu'il aura été adopté. Et le risque, c'est la surenchère. Et c'est de voir des gens se lancer en une espèce de concours Lépine à qui sera le plus brutal et le plus discriminant.
C'est pas un peu facile donc, de résumer ce texte ainsi. Il y a beaucoup de mesures quand même.
Mais
de
je ne dis
de
pas.
Oui, ça va rien régler.
Michel, dans mon
au contraire.
Je disais que
des choses vont avancer, non?
Il y a des choses qui vont avancer. Ne croyez pas que demain, tout ce qui fonde le séparatisme va d'un seul coup disparaître. Et quand je dis que j'ai peur de la surenchère, c'est que j'ai peur que ce débat, en réalité, ce soit l'occasion pour beaucoup de déverser leur haine, etc. Ce que je ne souhaite pas. Nous verrons bien. Bon, maintenant, revenons au texte lui-même et à son équilibre. Bien justement, son équilibre, c'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'on est juste sur un texte qui va être dans une forme de répression, qui va chercher à serrer la vis, et de ce point de vue, on peut le suivre. Et puis, il manque un volet qui aurait dû être, au contraire, un volet qui soit un volet d'accueil, de non-discrimination, de lutte contre le racisme, de lutte contre tout ce qui, aujourd'hui, pollue aussi notre air commun. Et moi, ce que je regrette profondément, c'est que quand on veut lutter contre les séparatismes, eh bien, il faut lutter contre les racines du séparatisme qui ne sont pas uniquement dans l'islamisme
Olivier
politique
Fort.
Ou radical.
Alors, Damien Fleurot.
Donc, on vous comprend, vous ne voterez pas ce texte, en tous les cas, en l'état, même si...
Je n'ai rien dit.
Il y a des avancées, selon vous ?
Il y a des avancées, il y a des points sur lesquels je partage l'idée du gouvernement, je suis un laïc convaincu, je suis un républicain
donc,
convaincu.
Quelle est la position du groupe socialiste à l'Assemblée nationale ?
Le texte n'a pas encore été débattu.
En commission spéciale, des amendements ont été adoptés d'ailleurs.
Ce que je veux savoir, c'est quel sera son équilibre et son économie générale à la fin. Ce que je dirais maintenant et ce que je dirais jusqu'à la fin, c'est que ce texte manque cruellement de dispositions, par exemple, sur les quartiers. Comment se fait-il qu'on continue à vivre avec... des grands discours, mais que le plan Borloo n'est pas appliqué.
Le gouvernement
comment
s'est déplacé en grande pompe à Grigny, en région parisienne.
Il vient de se déplacer, mais attendez. Il vient de se déplacer. On est 3 ans après le début. Le plan Borloo, il a été remis il y a 3 ans. Et donc, on nous fait de grands discours à chaque fois. Je n'y crois plus. Il y a peut-être un moment où les Français ont pu se dire « Bah oui, effectivement, le président, il parle bien. » Oui, il parle bien, c'est vrai. Il parle toujours bien. Mais il agit mal. Et donc, le problème, c'est bien ça. C'est que moi, je ne veux pas simplement du blabla. Je veux aussi qu'on ait des résultats. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les inégalités, elles progressent. Et qu'est-ce qui permet aux islamistes radicaux de trouver des oreilles attentives ? Sinon, cette discrimination, sinon cette inégalité, sinon cette disparité territoriale qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent aller chercher des esprits faibles qui sont fragiles parce que justement, ils sont abandonnés par la République française.
Olivier Faure, on vous entend donc élever la voix sur ce sujet. Je vous livre ce que dit Michael Delafosse, maire de Montpellier, hein, considéré comme l'étoile montante du PS, il le dit dans Le Point. La gauche se doit d'être très au clair avec les questions d'autorité, de respect des règles et de lutte contre les incivilités parce que je résume, ce sont les classes populaires qui souffrent en premier de ces phénomènes. Vous allez adapter votre discours au PS pour 2022 en étant maintenant clairement adepte du discours sécuritaire.
Mais qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant ? Je viens de
non,
vous dire...
vous avez critiqué la position du gouvernement,
non,
mais on veut entendre ce que vous dites, vous, au sein du Parti Socialiste.
Non, Michael Darmon, ce que j'ai dit, c'est que je voulais un équilibre qui n'existe pas. Mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être effectivement clair avec l'autorité, avec les règles. C'est ce que j'essaye d'expliquer depuis 3 ans que je suis premier secrétaire. Il n'y a pas d'hésitation de mon côté sur ce plan-là. Et ne faites pas semblant de croire non plus que les socialistes, quand ils ont gouverné, auraient été particulièrement laxistes et qu'ils n'auraient absolument jamais gouverné
avec autorité. Moi, je fais semblant de rien, mais quand on voit Michael Delafosse, maire de Montpellier, membre du PS, qui dit « il faut être au clair, enfin être au clair », ça veut dire qu'il y a eu un problème. C'est pas moi qui le dis.
Je ne suis pas sûr que Bernard Cazeneuve, dont vous avez régulièrement... louer l'autorité puisse être taxé de particulièrement laxiste.
Et ça, je renvoie au débat entre, effectivement, à l'intérieur de votre parti. Nicolas Barré.
À gauche, on voit une nouvelle génération de penseurs ou d'élus. On citait le maire de Montpellier et puis peut-être quelques autres qui veulent créer une écologie républicaine qui n'a pas peur du nucléaire, en tout cas pour qui il n'y a pas vraiment de tabou, ni de dire qu'il y a des choses à réformer au sein de l'État. Est-ce que vous êtes sur cette ligne pragmatique au Parti Socialiste ?
Je ne sais pas si c'est du pragmatisme, en tout cas c'est du réalisme. Et le réalisme, c'est que nous sommes face à des défis qui sont des défis majeurs. notamment le réchauffement climatique, mais aussi le passage à l'économie numérique, le capitalisme de surveillance, bref, tous ces sujets sur lesquels nous sommes attendus et sur lesquels il va falloir développer une vision. Et donc, quand je vois effectivement la tribune à laquelle vous faites référence, c'est une tribune qui a été rédigée par de nombreux amis et qui sont souvent inspirants. Et donc, oui, je crois que nous devons avancer avec toutes celles et ceux qui le souhaitent pour pouvoir refonder. Moi, ce que je souhaite, c'est refonder un grand parti à gauche à l'automne prochain pour pouvoir arriver à créer les conditions d'une alternance et le faire donc avec celles et cette nouvelle génération qui pense, de mon point de vue, assez juste parce qu'elle pense à la fois en référence à ce que sont nos principes et nos valeurs qui n'ont pas fondamentalement bougé, mais elle pense aussi en les adaptant au fur et à mesure au monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. Et donc oui, avec eux, il va falloir construire.
Un parti donc qui mélangerait, hybriderait, on va dire, socialisme, écologie, des Verts, des socialistes. Vous voulez faire un parti socialiste nouveau ? Il y aura un nouveau nom ?
Nous verrons bien. Moi, je ne suis
vous
pas...
Bien,
je ne
vous y
pas.
Pensez déjà.
Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Je veux une discussion sans tabou. Je veux que tout soit sur la table. Tout. Et à la fois nos pratiques, notre fonctionnement, notre façon de penser, tout doit être sur la table. Parce que nous avons un défi. On ne peut pas laisser... comme ça, continuer avec une gauche qui se balade entre 24 et 30% d'opinion, enfin d'espérance au premier tour de la présidentielle. C'est pas possible. Il faut bien sûr que dans ce pays, on puisse retrouver une gauche qui soit une gauche qui enthousiasme, qui emmène les jeunes générations. Et donc, nous avons cette chance d'avoir au municipal, vous avez parlé de Michael Delafosse. Très bien. Si vous aviez parlé, vous pourriez parler aussi à Nancy de Mathieu Klein, à Rouen de Nicolas Meyer-Rossignol, à Nantes de Johanna Roland, à Rennes de Natalia Perret. À Saint-Ouen.
Donc vous dites qu'il y a une renaissance d'un socialisme municipal, mais est-ce qu'il peut aller au pouvoir ?
Mais pourquoi voulez-vous cantonner les gens parce qu'ils seraient maires aux municipalités ? Ils ne sont pas cantonnés à ça. Ce sont des gens qui ont une expression, qui ont une pensée, et il se trouve qu'ils ont plutôt une pensée homogène. Et que c'est une génération qui a envie, effectivement, de marier l'écologie, le social, le démocratique... et le féminisme. Alors, voilà les quatre piliers sur lesquels nous nous fondons aujourd'hui.
Alors, puisqu'il n'y a aucun tabou, question donc Damien Fleurot.
Oui, un sentiment anti-homme occidental qui semble très ancré, une sorte de haine du soi, du vieux continent qui arrive d'outre-Atlantique, c'est ce qu'on appelle en fait la cancel culture en anglais, cette relecture de l'histoire qui pose le fait colonial comme la seule grille de lecture. Est-ce qu'au nom de l'antiracisme et de l'égalité sociale, la seule action possible, c'est de couper des têtes aujourd'hui ?
D'effacer les noms de rue, enlever les statues.
Non, ça n'est pas du tout la seule façon. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce qui s'est fait l'an passé au musée d'Orsay. Il y avait une exposition sur ce qu'ils ont appelé le modèle noir. Et donc sur la façon dont on peignait l'homme ou la femme noire au cours des siècles. Et évidemment, ils sont tombés sur un nombre d'œuvres qui étaient des œuvres stigmatisantes, où l'homme ou la femme noire était placée dans une certaine position pour pouvoir marquer son infériorité. Eh bien, qu'ont fait, en fait, les commissaires de l'exposition ? Ils ont parfois renommé les œuvres, mais ils les ont exposées, et ils les ont contextualisées, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué pourquoi, comment et ce qui avait conduit le peintre et quelle était la façon de penser à l'époque où il peignait. Eh bien, c'est, me semble-t-il, la meilleure façon de faire.
Expliquer,
c'est-à-dire que nous avons une histoire...
qu'effacer.
Nous avons une histoire, et puis après, il faut faire apparaître de nouveaux héros aussi, parce que les héros ne sont pas tous blancs. Vous avez des héros noirs, vous avez des héros beurre, vous avez des héros de toutes les couleurs, et ils ont marqué l'histoire de France. Notre histoire n'est pas une histoire exclusivement blanche. Malheureusement, c'est la seule qui soit célébrée. C'est trop souvent cette histoire-là. Et donc, il faut avoir un rapport de vérité. Et même sur la question du colonialisme que vous évoquiez à l'instant, il faudra dire aussi à un moment donné que la République française a pu commettre des crimes, elle aussi. Et donc, il faut parfois... avoir cette, ce rapport
Macron
à la vérité. Emmanuel Macron l'a dit, puis
le
plus dit, puis redit.
On va voir.
Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse effectivement le dire pour que chacune et chacun dans notre pays ait bien le sentiment qu'il a sa place ici et qu'aucune part de notre histoire n'est mise sous la table et n'est tabou.
Alors, pour continuer à regarder sans phare la société française, on se retrouve dans quelques instants avec Olivier Faure.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Olivier Faure donc, pour cette dernière partie du grand rendez-vous. Question de Damien Fleurot.
Oui, Olivier Faure, l'onde de choc de l'affaire Duhamel, la parole des victimes de l'inceste qui se libère et avec ce constat effrayant. Ce qui fonde notre civilisation, le refus des relations intimes intrafamiliales, apparaît comme une pratique secrète d'une société libertaire que l'on a souvent associée à la gauche. Est-ce que la gauche a cautionné une culture trop permissive qui pourrait justifier aujourd'hui des excuses ?
Merci de cette question, parce que je vois bien que c'est la thèse qui court dans un certain nombre de cénacles, de médias, et elle m'attriste profondément. Elle m'attriste parce que, malheureusement, le drame de l'inceste, il touche tous les milieux, toutes les cultures. Et malheureusement, je ne veux pas revenir sur des faits, sur des faits douloureux dans l'Église catholique, mais qui montrent bien que ça n'est pas le privilège d'une culture qui serait 68arde, libertaire, etc., que malheureusement, il y a des déviances qui existent et qu'il faut combattre partout. Et ce serait un tort de vouloir le cantonner à tel ou tel milieu.
Pardon, mais il n'y a pas eu, dans la sphère que vous venez de citer, il n'y a pas eu de manifeste, pétition, même il y a très longtemps, qui disait l'amour libre, l'amour avec les enfants, c'est possible au nom d'une liberté. Donc il y a effectivement une question qui se pose, Olivier Faure.
Moi, je ne me reconnais absolument pas dans ces appels. Je n'en ai jamais signé aucun.
J'entends bien.
Ça ne me vient même pas à l'esprit.
Que vous ayez des gens qui se soient égarés une époque.
Dans les années 70, etc., ils se sont arrêtés bien avant que les faits ne soient connus, etc. Et donc, pour une poignée de zozos qui ont pu signer ce genre de choses, franchement, vous ne pouvez pas condamner, en fait, l'ensemble de ceux qui...
C'est une déviance individuelle.
C'est une déviance individuelle. Ben, en l'occurrence, quand sur ce sujet-là, il signe, s'il a signé des papiers de ce type, que je n'ai jamais lu, mais enfin, effectivement, oui, c'était un problème que même à cette époque, on ait des gens qui aient pu penser cela. Mais ne laissons pas croire, parce que ce serait trop facile, ne laissons pas croire que la pédophilie, que l'inceste sont cantonnés à une sphère particulière. Ce serait même un problème, parce que ça laisserait penser que, en fait, on peut la combattre uniquement en s'attaquant à tel ou tel milieu. Donc, il faut y aller de plein fouet. Et justement, puisque vous m'interrogez là-dessus, il y a une députée, Isabelle Santiago, députée du Val-de-Marne, socialiste, qui a déposé, il y a plusieurs semaines, bien avant l'affaire Duhamel, un texte qui permet de condamner plus facilement l'inceste et les agressions sexuelles sur mineurs. Ce texte, il sera en débat le 8 février prochain. Eh bien, j'espère une seule chose, c'est qu'on aura une majorité qui sera suffisamment capable de mettre ces problèmes... Il y a d'égo, c'est pas un problème d'égo, c'est un problème de drapeau dans sa poche.
De chapelle politique.
De chapelle politique pour adopter ce texte. Parce que ce texte, il est fondamental.
Sur la prescription.
Et il est attendu par l'ensemble des organisations qui s'occupent aujourd'hui de la jeunesse. Il s'intéresse d'abord, non pas à la prescription, mais d'abord à la question de savoir si on présume ou pas le non-consentement. Mmh. Et donc, 15 ans en cas d'agression sexuelle par quelqu'un qui n'a pas de rapport avec le mineur, 18 ans quand il s'agit d'inceste. C'est fondamental. C'est le raté de la loi Schiappa qui est venue en 2018. Il faut le réparer. Il faut impérativement faire en sorte que cette loi soit adoptée le 8 février.
Olivier Faure, un autre sujet. C'était le 22 novembre, Arnaud Montebourg, que vous connaissez bien, a profité de sa présence ici, à ce micro du Grand Rendez-vous, pour envoyer un message très clair à Xavier Bertrand, de l'autre côté de l'échiquier politique. On écoute, on regarde.
Moi, je veux rendre hommage à Xavier Bertrand, qui se bat dans les Hauts-de-France. J'ai des dialogues avec des gens très différents. Et heureusement, parce que le sujet aujourd'hui, ce n'est pas la droite, la gauche, les bleus, les rouges, les verts. Le sujet, pour moi, c'est la France. C'est comment on va relever le pays. Et comment on va venir en secours aux Français.
L'arc républicain de Montebourg, partager cette approche.
Bon, écoutez, qu'on discute les uns avec les autres, heureusement.
Vous parlez avec Xavier Bertrand, vous ?
Mais ça m'est arrivé de parler avec Xavier Bertrand, bien sûr, comme tout le monde se parle au Parlement. En fait, heureusement, dans des couloirs,
Mais là, c'est autre chose, c'est pas une discussion de collègues parlementaires.
Mais j'y viens, justement. Et c'est là, donc, qu'on se parle très bien, mais en revanche, qu'on laisse penser que nous pourrions être tous d'accord et que nous proposons tous la même chose, mais c'est la négation même du débat démocratique. C'est ce qu'a fait le président de la République en expliquant qu'au fond, on pouvait être et de droite, et de gauche, et du centre, et ceci et cela. Alors à force, il est où le choix ? Eh bien, le choix, il se reporte sur les extrêmes, parce que vous n'avez plus le choix. Et donc, quand on vous dit tout le monde c'est pareil, et que blanc et bleu c'est la même chose, ben non. Rouge
et bleu, c'est pas la même chose. Parce que la question de la souveraineté, que je comprends, il a raison à un moment de beau de dire qu'il y a un problème aujourd'hui en France de souveraineté alimentaire, de souveraineté sanitaire, de souveraineté sur un certain nombre de sujets, qu'il faut protéger nos grandes industries. Il a raison. Mais ça ne veut pas dire que cette souveraineté qu'on doit retrouver doit nous amener à une espèce de confusion complète entre les uns et les autres. Depuis tout à l'heure, on parle, par exemple, on a parlé des jeunes et du RSA. Moi, je dis la solution, c'est le RSA pour les jeunes. Mais la droite dit le contraire. Moi, je dis que la dette, elle ne doit pas être payée simplement par les classes moyennes et les classes populaires. Bah, et qu'il faudrait mettre, par exemple, remettre une contribution exceptionnelle sur les gros revenus. Mais la droite dit tout l'inverse. Donc ça sert à quoi la souveraineté si c'est pour dire qu'en un seul coup, on a les menottes au poignet et qu'on ne peut plus rien faire? Non, moi je veux de la souveraineté pour pouvoir décider, pas pour être dans une espèce de compromis mou dans lequel personne ne peut se retrouver.
Alors d'autres qui veulent aussi décider. Nicolas Barré.
Anne Hidalgo, la maire de Paris, créditée dans un récent sondage de 6% d'attention de vote à un premier tour éventuel de la présidentielle. C'est un scénario qui peut vous rappeler celui de Benoît Hamon à la présidentielle dernière.
Non, je ne rappelle pas ce scénario-là. En fait, Benoît Hamon avait commencé beaucoup plus haut et effectivement, il a fini bas. Je me rappelle d'un autre scénario, d'un homme devenu président qui avait commencé très bas et qui a fini très haut. Donc,
François Hollande, 3%,
donc les sondages. Vous soutenez Anne Hidalgo dans sa possible quête de l'Élysée. Alors.
Mais ce que je vous dis, Nicolas Barré, c'est que les sondages, à 18 mois de l'échéance, c'est juste pour faire parler le microcosme, ce que nous sommes, etc. Parce qu'il faut bien se dire qu'on a quelque chose à raconter sur cette histoire.
On sait que ça vous passionne.
On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça me passionne, oui. Ce qui me passionne, ce sont les idées. Ce qui me passionne, c'est le fait de me dire qui est-ce qui peut sortir ce pays du marasme? Qui est-ce qui peut relever ce pays? Parce qu'après la crise sanitaire, il y aura une crise économique, une crise sociale, une crise climatique et qu'il faudra bien en parler. Oui, ça m'intéresse. Mais alors, commentez tous les sondages. Vous avez des gens qui vont être un jour à 10, qui vont vous dire « Je suis le roi du pétrole ». Qui est le roi du pétrole à 10? Personne. Donc, la réalité, c'est que nous avons aujourd'hui à travailler. Et ce que je vois, c'est que si la gauche n'était pas la plus bête du monde et qu'elle savait présenter une offre commune, elle serait devant Marine Le Pen et elle serait devant Emmanuel Macron. Je le vois.
On teste beaucoup de personnalités dans les sondages. Anne Hidalgo, François Hollande, Arnaud Montebourg. Pourquoi jamais vous?
Parce que moi, j'ai toujours dit, il faudra, le moment venu, choisir celui ou celle qui a le plus de résonance dans l'opinion publique. Si demain matin, il se trouvait que j'étais le mieux placé parce que les Français, en se levant, se disent tous « il faut Olivier Faure », je ne me déroberai pas.
Bon, pour l'instant,
C'est pas ce que j'ai observé.
Mais et la donc, résonance...
Il faut avoir de la lucidité en politique aussi. Il faut être capable de se mettre au service d'une idée collective. Ce que je fais depuis 3 ans, croyez pas que je suis pas né avec l'idée que j'allais devenir premier secrétaire du PS quand même. Enfin, ça m'est même pas venu. Enfin, même ça m'est venu à. Non, ça ne m'est pas venu à l'idée. Je savais même pas que c'était un jour
député. Ça vous est venu à l'idée quand même à un moment. Hein.
Et donc, oui, ça m'est venu à un moment, bien sûr. Mais enfin. Je l'ai fait parce que je crois à ce que je porte. Parce que quand je me lève le matin, je me bats pour des gens, parce que je sais très bien à qui je fais référence quand je parle ici de ceux qu'ils vivent. Parce que ça, c'est des visages, c'est des noms, c'est des adresses, c'est des gens qui sont... Voilà, c'est pas rien. Et donc, si je me bats aujourd'hui, c'est pour que les idées que je porte triomphent. Donc, pourquoi être un de plus quand il y en a déjà tellement et que c'est la division qui nous conduit à la défaite?
François Hollande vous a proposé son expertise. Il y a quelques mois, vous avez un peu balayé cette option, plus qu'un peu. Il n'est plus utile pour vous?
Non, j'ai rien balayé du tout. Je dis simplement que quand François Hollande laisse penser que la situation actuelle socialiste serait due à l'actuelle direction et qu'il n'y serait pour rien, ça coince.
Damien Fleurot.
Olivier Faure, tout à l'heure, vous n'avez pas vraiment répondu au changement de nom du Parti Socialiste. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur le déménagement, le changement de siège du Parti Socialiste?
Vous venez à Paris?
C'est une hypothèse de plus en plus sérieuse.
N'a pas marché, ce déménagement à Évry. Vous souhaitiez faire un lieu de ce nouveau siège, une ruche, un rassemblement, envoyer un symbole aussi, quitter les beaux quartiers?
Il ne s'agit pas de revenir dans les beaux quartiers, il s'agit de retrouver le siège historique qui fut celui du Parti Socialiste d'Épinay.
Dans le 9e arrondissement.
Dans le 9e arrondissement. Et donc, il y a une opportunité immobilière avec donc un organisme associé. Et donc, nous pouvons éventuellement y parvenir. Ça n'est pas encore sûr pour des raisons qui sont purement techniques, absolument pas politiques et ni financières. Et donc, dans quelques semaines, on le saura et on verra à ce moment-là. Mais... je trouve qu'on a passé beaucoup de temps sur nos locaux, ce qui est très intéressant, mais ça
comment
fait
ça,
des
ce matin
non. Non, pas ce matin. Pendant des mois et des mois, ça a été un
parce
sujet.
Parce que c'est la force du symbole en politique.
Oui, mais parfois,
autre symbole, Nicolas Barré.
Alors, puisqu'on est dans l'histoire et dans les symboles, on parle beaucoup de, un peu de François Mitterrand en ce moment. Ce sera le 40e anniversaire du 10 mai 81 cette année. Et puis, Emmanuel Macron était à Jarnac le 8 janvier pour l'anniversaire de la mort de l'ancien président. Il essaye de réactiver la jambe gauche, peut-être, de son
quinquennat. Secondes.
Bon, je ne sais pas ce qui réactive, parce que, en fait, François Mitterrand a été l'homme de l'impôt sur la fortune et Emmanuel Macron, celui de son abolition. François Mitterrand a été l'homme de la retraite à 60 ans. Celui qui veut faire une retraite pour payer la dette, c'est Emmanuel Macron, et ainsi de suite. Emmanuel Macron, il rend hommage à ceux qui ont précédé.
L'espérance de vie a un petit peu augmenté
depuis 40 ans. Il a été gaulliste, il a été pompidolien, il a été giscardien, il a été chiracien, il est un peu... Bon, il mange à toutes les portes, espérant que ça lui rapportera. Moi, ce que je crois, c'est que les femmes et les hommes qui ont soutenu François Mitterrand et ceux qui aujourd'hui se reconnaissent dans l'esprit du 10 mai ne peuvent pas se reconnaître dans ce que porte aujourd'hui Emmanuel Macron. Donc, bon, qu'il rende hommage, c'est bien, c'est bienvenu. Il est président de la République et donc il est bien qu'il reconnaisse ses glorieux prédécesseurs.
Merci Olivier Faure d'avoir été notre invité. Je remercie Nicolas Barré, Damien Fleurot. Excellente journée. Vous pourrez retrouver donc notre émission en replay sur le site Europe 1. À dimanche.